Le magazine des Nations Unies.
Nous sommes dimanche 22 janvier 2015. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Au sommaire de cette édition, processus électoral 2015-2016 en RDC, la MONUSCO va contribuer à la mobilisation des fonds. Son porte-parole l'a annoncé mercredi dernier à Kinshasa. Vous suivrez Charles-Antoine Bambara dans l'actualité de la semaine. Pour avoir une éducation de qualité, l'enfant doit apprendre d'abord dans sa langue maternelle. Une thèse soutenue par l'UNESCO, un expert de cet organisme des Nations Unies en RDC, nous éclairera là-dessus dans la rubrique décryptage. Enfin, le PAM ne cesse d'innover dans l'assistance humanitaire aux déplacés et autres vulnérables. Après le projet Bon d'achat, cette organisation des Nations Unies lance un autre projet pilote avec une société de télécommunications. Nous en saurons davantage avec son chargé de communication qui est notre invité. Et ce sera tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour mesdames et messieurs, parlons du rôle de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo par rapport au processus électoral en cours. Ce rôle est précisé dans son mandat, il s'agit d'un appui technique et logistique ainsi que de la mobilisation des fonds auprès des bailleurs pour la tenue des échéances électorales. Charles-Antoine Bambara, porte-parole de la MONUSCO, l'a souligné au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Suivez plus ces propos recueillis ici par Honoré Missenga-Kalala.
Nous avons pris acte de la connaissance du calendrier global présenté par la CENI. Et vous savez qu'au niveau des missions qui sont confiées à la MONUSCO dans le cadre de la résolution 2147, il est dit très clairement que la MONUSCO doit apporter un soutien logistique, technique et d'accompagnement donc de ces élections. C'est ce que nous avons entrepris depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Une unité de la MONUSCO siège au sein même de la CENI pour accompagner tout ce processus. Nous allons une fois de plus voir dans quelle mesure nous pourrons mobiliser la communauté internationale pour apporter ce qui manque le plus, c'est-à-dire l'argent pour financer donc ces élections. Nous allons donc contribuer à la mobilisation des fonds pour cette élection. Vous savez que les agences des Nations Unies, le PNUD et d'autres agences sont très mobilisées autour du financement de cette élection. Monsieur Martin Kobler, le chef de la mission de la MONUSCO, rencontre régulièrement les ambassadeurs accrédités ici auprès de la RDC en séance de travail pour évoquer cela. Et je crois que de plus en plus, ces rencontres vont monter en puissance pour que les fonds promis par les uns et par les autres puissent être disponibles pour le déroulement de ces élections. Pour ce qui nous concerne au niveau de la MONUSCO, nous avons une feuille de route claire, une fois de plus donnée par la résolution 2147, soutien logistique, soutien technique, et mobilisation des fonds. Et c'est ce que nous faisons depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous allons monter en puissance, comme je le disais, dans la mobilisation des fonds pour l'organisation de ces élections. Nous allons essayer d'appuyer de façon ferme, de façon concrète la CENI pour que le calendrier qu'elle a établi puisse être tenu. Maintenant, si pour des raisons diverses elle n'arrivait pas à tenir ce calendrier, ce ne sera pas en tout cas le soutien qui manquerait au niveau de la MONUSCO. Nous nous sommes engagés, je le répète, de façon ferme, directe, à faire de telle sorte que ces élections aient lieu suivant le schéma établi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Pour la 15e fois, le monde a célébré la Journée internationale de la langue maternelle, une journée consacrée par l'UNESCO le 21 février de chaque année. Pour comprendre le concept langue maternelle ainsi que les objectifs de cette journée, nous avons approché M. El Hadji Meissa Diop, expert en éducation au bureau de l'UNESCO en RDC. M. Meissa répond une fois encore aux questions d'Honoré Missenga-Kalala.
Monsieur El Hadji Meissa Diop, bonjour.
Bonjour.
Le 21 février est une journée internationale consacrée à la langue maternelle, une journée décrétée par l'UNESCO, votre organisme. D'abord, comment l'UNESCO définit-elle ce concept langue maternelle?
Je vous remercie et me réjouis de participer à cette émission importante pour nous, l'UNESCO. La langue maternelle peut quand même être désignée des situations différentes, selon le cas, mais pour la plupart du temps, elle se définit donc comme la langue que l'on a apprise, que l'on a acquise en premier. Et comme le terme l'indique, c'est la langue qu'on a prise de sa maman. Mais dans plusieurs contextes, Cette définition peut varier. Elle peut désigner la langue par laquelle vous vous identifiez, mais aussi la langue par laquelle les autres vous identifient. À partir de ce moment, elle peut donc être une langue primaire ou une langue purement première que la personne parle comparativement aux autres langues qu'elle a acquises après et qui sont des langues peut-être nationales ou internationales.
Donc la langue maternelle n'est pas forcément la langue de ses parents, la langue d'origine.
Logiquement, la langue maternelle est la langue d'origine. Mais, vous savez, on peut être originaire d'une ethnie ou d'une tribu, mais ne plus parler cette langue qu'on a perdue peut-être parce qu'on n'a pas été dans un milieu qui a pratiqué cette langue. Alors la langue peut être à la fois une langue locale, mais comme elle peut ne pas être une langue locale, parce que vous pouvez parler le lingala, vous retrouvez par exemple à Hambourg ou à Paris, et vous retrouvez dans une situation où vous avez complètement perdu le lingala. Le lingala demeure votre langue maternelle, mais vous ne la parlez plus au profit de la langue locale qui est le français ou l'allemand.
Alors on peut aussi faire un parallélisme entre langue maternelle et langue locale.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que j'ai voulu expliquer tout à l'heure, parce que quand par exemple vous allez dans un milieu comme le Bandundu ou bien vous allez à Matadi, vous pouvez trouver des familles qui sont originaires par exemple de l'Est, de Maniema ou du Kouvou, qui sont des familles swahilophones par exemple, et qui peut-être dans un contexte où la famille s'installe dans un milieu par exemple qui parle le Kikongo ou le Lingala, il se retrouve que les parents, les adultes peuvent conserver la langue, mais l'enfant qui a grandi dans ce milieu peut progressivement perdre sa langue maternelle au profit d'une langue locale, peut-être dominatrice ou bien qui est plus parlée, et qui fait que, en fin de compte, il faudra que cet enfant soit recyclé dans sa langue pourtant maternelle qu'il a perdu, qu'il n'a pas pu acquérir.
Alors, monsieur le ministre, revenons à la journée elle-même. Pourquoi une journée internationale de langue maternelle? Ou si vous voulez, quels sont les objectifs de cette journée?
Vous savez, l'UNESCO, donc, dans sa politique de développement de certains concepts, a légiféré avec le système des Nations Unies en organisant des journées internationales. Et la journée de la langue maternelle est donc une occasion pour l'UNESCO d'attirer l'attention sur l'importance de la langue maternelle. Donc, pour faire aboutir les efforts en matière d'éducation, vous savez, la langue, elle est fondamentale dans le développement de l'individu. Imaginez-vous, par exemple, un jeune Chinois qui arrive à l'école pour la première fois et à qui on parle lingala. C'est dans le même contexte que se trouvent nos enfants qui sont nés dans un milieu lingalophone, swahilophone, et qui le premier jour se retrouvent dans un contexte où on leur parle le français. C'est un problème. Et donc, l'UNESCO travaille à ce que toutes ces langues soient prises en compte pour éviter que ces enfants se retrouvent dans une situation où l'acquisition devient difficile et empêche un peu une éducation de qualité. Et donc, ça crée des redoublements, des abandons, et par conséquent, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs et les résultats de l'éducation pour tous.
Et par rapport à la célébration de cette journée, le 21 février de cette année, est-ce qu'il y a une particularité comparativement aux années précédentes?
Tout à fait, tout à fait. Il y a une particularité parce que, vous savez, nous fêtons cette année le 15e anniversaire. Parce que la célébration a commencé en 2000 et 2015 marque le 15e anniversaire d'abord, mais ensuite 2015 marque l'étape ultime de l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement. Et il est important cette année de faire une évaluation par rapport à ce qui a été réalisé sur les objectifs du millénaire pour le développement et même sur l'éducation pour tous, et de dire qu'est-ce qui va être fait dans le poste 2015. À partir de ce moment, il est important de s'interroger sur ce que l'on a pu réaliser à partir des langues nationales, mais aussi quelle a été la place de ces langues dans nos systèmes d'enseignement. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, d'apprécier. Parce que nous savons que pour avoir une éducation de qualité, il faut que l'enfant apprenne dans sa langue maternelle. Et ça a été démontré par tous les scientifiques qui ont expliqué que la langue maternelle est un élément fondamental. Et il faut apprécier cette année qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent dans ces langues maternelles dans nos pays pour que l'UNESCO puisse, avec l'ensemble des acteurs de l'éducation au plan mondial, réorienter les décisions afin que la langue maternelle retrouve la place qui est la sienne dans le développement du système éducatif.
Et concrètement, comment va se passer cette évaluation en ce qui concerne la RDC par exemple?
La RDC a fait une évaluation du niveau d'atteinte, notamment des objectifs du millénaire pour le développement et des objectifs de l'éducation pour tous. Nous savons qu'en matière d'accès à l'éducation, la RDC a fait des progrès énormes parce que nous sommes aujourd'hui à un taux brut de scolarisation très élevé, presque avoisine les 100%. Maintenant, le problème est, est-ce que cette éducation est de qualité? Et nous savons que les langues maternelles jouent un rôle important dans cette éducation de qualité, et nous savons qu'aussi il y a des difficultés par rapport à l'utilisation de ces langues, aussi bien locales que nationales, parce que aujourd'hui, on enseigne en français et l'enfant a des difficultés par rapport à des interférences, par rapport à comment utiliser tel ou tel concept, et même les enseignants qui devraient être leur mentor, rencontrent aussi des difficultés dans ce domaine et CA pose toute la problématique de l'utilisation des langues maternelles dans le système d'enseignement.
Est-ce qu'il y a d'autres actions que l'UNESCO a préconisées dans le cadre de cette journée?
Tout à fait. Vous savez, l'UNESCO accompagne les pays. En RDC, il y a ce qu'on appelle l'Observatoire du développement des langues nationales, parce que la RDC aussi a une particularité, que cette question des langues est gérée au niveau du ministère de la Culture. Dans d'autres pays, cette question des langues nationales est gérée au niveau du ministère de l'Éducation, notamment dans le département qui s'occupe de l'éducation des adultes et du développement des langues. Donc il y a l'Observatoire qui organise chaque année une journée importante comme ça, de mobilisation, mais aussi de débat scientifique sur les réalisations dans les langues nationales, sur l'avancée des sciences dans ces langues, parce que c'est vrai, on nous a toujours rétorqué que nos langues ne peuvent pas porter la science. Ce qui est faux, parce que une langue, quelle qu'elle soit, peut être développée, aménagée, améliorée scientifiquement pour donc acquérir toute la science et permettre aux enfants qui parlent cette langue de pouvoir donc être formés et pour devenir des scientifiques de ce nom. Donc, la journée est l'occasion vraiment de renforcer encore le plaidoyer, mais aussi de tenir le débat scientifique sur ces questions importantes.
Alors, que peut faire l'UNESCO pour promouvoir ces langues nationales?
Vous savez, l'UNESCO a le mandat dans le domaine de l'éducation, mais aussi d'une éducation de qualité. Et nous savons tous que pour qu'une éducation soit de qualité, il faut que l'enseignement se fasse dans les premières années de base dans la langue maternelle. Et l'UNESCO a préconisé que cette langue soit introduite à l'école. Il y a un important travail qui est fait en même temps aussi par l'OIF dans ce domaine, avec le projet Élan, qui permet à ce que les enfants commencent leur apprentissage dans la langue maternelle et qui progressivement, au cours du cursus, arrivent donc à mieux acquérir le français. Donc l'UNESCO accompagne cette initiative, mais aussi renforce un peu la recherche sur les langues nationales pour permettre un peu de les renforcer scientifiquement, de faire l'aménagement linguistique et de déboucher sur des langues assez costauds pour pouvoir porter donc l'éducation à travers le monde.
Monsieur El Hadji Meïssa Diop, merci de votre disponibilité.
Ouvrons cette page de brève avec cette formation contre les violences sexuelles et basée sur le genre organisée par le CNUD à l'école de la police de Mugunga au Nord Kivu en faveur de près de 60 officiers de police judiciaire OPJ dont 7 femmes venues des deux Kivu et du district de l'Ituri dans la province orientale. Objectif, accroître les compétences techniques et opérationnelles susceptibles de permettre à ces OPJ de faire face à ce fléau dans l'est du pays. La formation de 3 mois s'est achevée mardi dernier. Elle entre dans le cadre de l'appui du CNUD au gouvernement contre les violences sexuelles. Les ministres congolais de la justice et du genre, le commissaire général de la police nationale congolaise, le chef de la coopération canadienne et Madame Priya Gajraj, directeur pays du CNUD, ont assisté à la cérémonie officielle de clôture de cette formation. Formation encore, environ 80 membres du personnel civil, militaire et de la police de la MONUSCO ont suivi du 29 janvier au 17 février dernier une série de formations sur le genre à Goma, Bunia, Kisangani et Bukavu. Une série de formations organisées par le bureau genre de la MONUSCO dans le cadre de son mandat pour une meilleure prise en charge de la dimension genre dans le travail et les activités de différentes composantes de la mission onusienne. Et puis ces statistiques, pour finir, selon la section protection de l'enfant à la MONUSCO, 68 enfants ont été victimes de violences directement liées au conflit dans l'est de la RDC. 58 enfants, d'entre eux âgés de 8 à 17 ans, dont 8 filles, se sont échappés des groupes armés au nord Kivu, au sud Kivu, au Katanga et en province orientale.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le programme alimentaire mondial lance d'ici fin février un projet pilote au Katanga avec une société de télécommunication pour un transfert direct cash. Quel est l'intérêt de ce projet, son coût ainsi que ses bénéficiaires? Claude Kalinga, chargé de communication au PAM RDC, est notre invité. Il répond à toutes ces interrogations dans un entretien avec Jean-Pierre Lali Ikoko. Suivez.
Claude Kalinga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de communication au PAM RDC. Le PAM projette à la fin de ce mois de février de lancer un projet pilote avec une société de télécommunications sur le transfert direct du cash. Expliquez-nous ce projet, Claude.
Oui, en partenariat avec la société de communication Vodacom, le PAM lance un projet pilote au Katanga pour une distribution de cash via ce que nous appelons le service Vodacash au M-Pesa.
C'est-à-dire
qu'on envoie l'argent à travers la téléphonie mobile. Chaque bénéficiaire a un numéro de téléphone et par ce numéro, donc nous lui envoyons le cash.
Donc la société choisie, c'est Vodacom,
c'est ça? Vodacom Congo, oui.
Ok, on ne fait pas sa publicité.
Non, parce que évidemment ailleurs, on le fait avec d'autres partenaires. C'est en faveur de 600 ménages au courant de ce mois de février pour une durée de 3 mois. Donc cette assistance de transfert monétaire inconditionnel, je le souligne, via Mobile Money, a pour objectif d'aider les plus vulnérables à acheter de la nourriture sur le marché local. Donc les ménages ciblés en situation d'insécurité alimentaire, bénéficiaires du projet, sont pour la majorité des personnes déplacées internes qui ont décidé de s'installer à Pweto dans le Katanga, particulièrement à Pweto cité, et également nous ciblons les familles et la communauté haute.
Oui, quel avantage offre alors ce projet par rapport à d'autres projets? Je pense ici à Bon d'achat.
En fait, le PAM peut utiliser le système Mobile Money ou les distributions directes de cash dans les zones où les marchés sont fonctionnels, de telle façon que les bénéficiaires puissent avoir la liberté de choisir et d'acheter la nourriture de leur choix. En fait, les bénéficiaires sont plus libres et responsables de leur choix qu'avec les coupons commodités, ce que nous appelons ici bons d'achat alimentaire. Cela permet évidemment également de stimuler l'économie locale.
Donc ça stimule l'économie locale, mais à qui ces projets destinés? Vous avez parlé des vulnérables, mais c'est exactement quelle catégorie de personnes?
Bon, il s'agit évidemment des ménages ciblés en situation d'insécurité alimentaire bénéficiaires du projet. Donc qui sont en majorité des personnes déplacées internes qui ont décidé de s'installer à Pweto cité, bien entendu la communauté haute. Nous ciblons ici 600 ménages, soit 3600 bénéficiaires. Vont pouvoir bénéficier de l'assistance du PAM.
Et vous parliez tout à l'heure de Pweto, mais pourquoi le choix de Pweto et pourquoi pas par exemple Mitwaba ou encore Manono ou même à l'équateur vers Bouéndé où il y avait l'Ebola par exemple?
En fait, depuis plus de 5 ans, une vague de violents conflits armés, comme vous le savez, opposant les forces Maïmaï Bakata Katanga aux forces armées de la RDC, s'abat sur cette province, donc entraînant des déplacements massifs des populations qui fuient évidemment de pillages, de tueries, abandon derrière rues, missions, champs, bétail, etc., etc. Donc, les territoires de Pweto, comme vous le savez, Manono et Mitwaba font partie de ce que nous appelons Triangle de la Mort. Donc, Pweto reste le territoire qui décompte le plus de personnes déplacées internes, donc soit 30% du total de la province. Donc c'est pour cette raison que Pweto a été ciblé.
Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur le coût du projet?
Bon, l'étude a démontré la possibilité, l'efficacité du transfert monétaire avec une valeur de transfert de 22,76 $ par bénéficiaire. Donc chaque ménage devra recevoir 136,56 $ par mois pour un coût total de 245,808 $. Okay. Donc c'est un montant qui a été fixé en fonction de l'évaluation qui a été faite, qui a été menée sur le marché local. Donc ça leur permet d'acheter le vivre de leur choix.
Ah, il faut dire, Claude, que c'est une bonne expérience. Est-ce que vous allez l'étendre dans le reste des provinces de la République démocratique du Congo?
Bon, en fait, pour la première fois, c'était en juillet 2012, le PAM a lancé dans la province de l'Équateur, en RDC, donc l'activité de distribution directe de l'argent en espèces en faveur des rapatriés provenant de la République du Congo. Donc depuis lors, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province orientale ont mené des projets de distribution directe de cash via Mobile Money. Donc ce n'est pas la première fois, le PAM l'a fait dans bien d'autres parties du territoire congolais.
À l'Équateur et au Kivu, c'est ça?
Bien sûr.
Alors, nous venons de faire l'étude d'horizon autour de ces projets. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de clore?
Oui, merci. Bien entendu, nous espérons que ce projet pilote sera un succès et qu'il sera possible de l'étendre à d'autres zones en fonction évidemment des besoins et des faisabilités. Cette première assistance est inconditionnelle, mais il est possible de mettre en œuvre une assistance conditionnelle avec par exemple le cash for assets ou le cash for training. Donc cash for training, ça dit qu'on vous donne le cash, mais en retour, vous participez à une formation.
Donc c'est la formation.
Évidemment.
Okay. Exact, et l'autre?
Donc l'autre, c'est les cash for assets, de la même manière que donc on donne de l'argent, de cash aux gens, mais ils peuvent faire du travail, notamment faire des étangs, évidemment tout cela pour sorte que ces personnes bénéficiaires puissent non seulement dépendre de ce que le PAM leur donne comme argent, mais au final que ces personnes soient à mesure de se prendre en charge. Je voulais ajouter qu'une évaluation post-distribution sera conduite pour évaluer l'impact des distributions sur le marché local et comprendre l'utilisation de l'argent au niveau des bénéficiaires qui sont par exemple sensibilisés à l'achat et à la consommation de la nourriture. Donc c'est un projet que nous trouvons important et nous pensons pouvoir, comme on l'a souligné plus haut, que nous pourrions l'étendre si besoin dans d'autres parties, non seulement du Katanga mais ailleurs.
Claude Kalinga, nous vous remercions de votre disponibilité.
Et maintenant, la nouvelle de province, le pont Louzira, à nouveau fonctionnel. Nous sommes en territoire de Calais, au sud Kivu. Cet ouvrage vient d'être réhabilité par la MONUSCO pour un coût de 15 000 dollars américains. Lundi dernier, l'ouvrage a été inauguré en présence du gouverneur de province et du chef de bureau de la MONUSCO au sud Kivu. Madame Christine Kapalata, chef de bureau de la MONUSCO, invite les autorités locales à veiller à ce que des engins de plus de 15 tonnes ne passent pas sur ce pont. Une crainte aussi exprimée par le président de la société civile locale, Désiré Madjégué, qui parle de la précarité de l'ouvrage. Il est au micro de Delphine Namuto.
Malgré la qualité du pont, nous, en tant que population de Calais, nous pouvons remercier la MONUSCO. Nous voyons que c'est un pont vraiment qui est précaire et qui ne peut pas supporter les pressions de ces eaux là-bas. À partir d'hier, les véhicules sont passés et on souhaiterait à ce que le gouvernement puisse voir comment est-ce qu'on peut nous placer un pont qui est vraiment durable. Ça, c'est un pont qui se trouve sur la route de Bukavu-Goma. Jusque-là, ça facilite la population de Calais à pouvoir faire Bukavu parce que les voitures avaient difficile à traverser la rivière parce que les disques avaient vraiment difficile à y passer. Maintenant, aujourd'hui, nous pensons qu'il y a déjà la facilité de pouvoir passer parce que le territoire de Calais est à caractère agro-pastoral. On produit les maniocs, les haricots, les maïs et on a comme débouché Bukavu et Goma. C'est pourquoi le pont est vraiment très nécessaire, très capital pour faciliter le passage des véhicules, camions et voitures.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Cette question posée mercredi dernier à partir de Goma au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Vous suivrez ensuite la réponse de Charles-Antoine Bambara, porte-parole de la MONUSCO à Kinshasa, complétée par Amadou Ba, directeur adjoint de Radio Okapi.
Okito Papi du journal Écho d'Opinion. Je vous parle de la route de l'aéroport de Goma jusqu'au centre-ville. La MONUSCO avait pris l'engagement de réhabiliter cette route. Jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a au moins quelque chose qui doit être fait d'ici là?
Je crois que les travaux ont effectivement commencé, avancent. Peut-être n'avancent pas aussi vite que les uns et les autres le veulent à Goma, mais les travaux ont bel et bien commencé. Est-ce que vous confirmez cela, Amadou?
Je confirme que les travaux ont commencé. Mieux que ça, sur le plan médiatique, Guy Siri, qui est le chef de la mission, a accordé des interviews à certains journalistes sur la question. Et il est évident qu'il y a la rue des poubelles que Charles connaît bien quand il vient à Goma. Aujourd'hui, lors de votre prochain séjour, vous n'allez pas la reconnaître, tout simplement parce qu'elle est plus que fréquentable avec un taux de fréquence très 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 élevé. La route de l'aéroport va suivre dans une démarche. Il y a un processus, il y a des étapes. Donc ne brûlons pas les étapes, soyons un peu plus patients. La MONUSCO tiendra son engagement puisque, effectivement, on est en plein changement.
Je crois qu'en tout, il y a entre un peu plus de 14 km de route bitumée que la MONUSCO s'est engagée à faire à Goma. Et donc, cela sera fait.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je réponds au nom d'André Kitenge Lunguma, Mwanakiabu Makamba. Je suis issu d'une famille de 11 enfants dont je suis le cinquième. Je suis marié et père d'une fille que j'aime bien. En ce qui concerne mon cursus scolaire, j'ai tout d'abord commencé par fréquenter l'école maternelle et cela pendant 3 ans dans une école de la Gécamine à Likasi au Katanga où je suis né et grandi. Ensuite, je suis allé à l'école primaire Tujenge, toujours de la Jekamine à Likasi, où j'ai terminé avec succès mes 6 ans d'études primaires. Après les études primaires, mon père voulait m'envoyer dans une école technique de la Jekamine à l'Institut Mutoshi de Kolwezi, mais je me suis opposé car je voulais bien faire les techniques sociales. Suite à mon opposition, mon père m'a inscrit dans une école des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, l'Institut Tutazami aujourd'hui, qu'on appelait avant Sacré-Cœur, pour faire mon cycle d'orientation. Ma première année n'a pas été prometteuse. J'ai quitté pour aller à l'Institut Mapinduzi de Likasi, où j'ai fait mon cycle d'orientation de 2 ans, puis je me suis inscrit à l'Institut Moulima, dans la section technique sociale où j'ai décroché mon diplôme d'état avec 64%. Je me suis préparé à embrasser les études universitaires. Mon premier choix m'oriente à l'Institut supérieur d'études sociales, ISES, à l'époque. Faute de place, j'ai pris la décision de me rendre à l'université de Kisangani pour poursuivre mes études supérieures. Sur place, j'ai changé d'avis et je me suis inscrit en sciences de l'éducation, dont la pédagogie à l'université. J'ai obtenu ma licence en pédagogie, option administration et inspection scolaire avec la mention distinction en 7 ans au lieu de 5 ans avec des critères de délibération très rigides à l'époque où il fallait réaliser 6 dixièmes à défaut avec les effets d'entraînement, d'autres cours où on se retrouvait parfois être à journée totale avec tous les cours ou à journée partielle. Comme expérience professionnelle arrivée en 2002 après 7 ans d'expérience dans le domaine de la radio, je postule comme journaliste à la radio Okapi. Après un test écrit et oral, je suis retenu comme journaliste à Radio Okapi de la MONUC, aujourd'hui MONUSCO, jusqu'à ce jour. Donc je suis un des pionniers de cette radio de la paix. Pour l'instant, je suis journaliste reporter. Chaque matin, je suis à mon poste de travail, je participe au conseil de rédaction en proposant des sujets d'information, de reportage et de magazines. Après échange et discussion avec les collègues de service, le secrétaire de rédaction attribue les tâches à chacun de nous et nous nous lançons tout de suite sur le terrain pour la collecte des informations à traiter et à diffuser localement et sur l'antenne nationale en priorité. Je fais également la traduction des nouvelles en swahili. Avant cela, j'ai été recruté en 1995 à la radio-télévision Amani, RTA, de l'archidiocèse de Kisangani pour animer des émissions sportives. 2 ans après, sur décision de l'abbé directeur de la radio, je suis dirigé à la rédaction des journaux parlés et je deviens présentateur des journaux et journaliste reporter après plusieurs formations organisées par la Radio Vatican et d'autres professionnels des médias. Quelques temps après, je suis nommé rédacteur en chef. Et cette fonction n'a duré qu'une année car j'étais appelé à travailler ailleurs, en l'occurrence à la radio Okapi. Mon temps libre, mes préférences, c'est tout d'abord le sport, notamment le basketball, suivi de la musique. Et pour cette dernière, j'aime plus la musique de King Kester Emenea, paix à son âme. Surtout, j'aimais la chanson Willow Mondo. Et j'aime également les films de guerre, d'horreur. Ça peut vous surprendre, mais c'est comme ça. Et pour mon plat préféré, en tout cas, c'est le foufou, le kakontwe, à la viande, au poisson, accompagné de feuilles de manioc, ou rien en tout cas. Enfin, pour mon projet d'avenir, c'est de faire la carrière scientifique, mais aussi créer ma propre radio pour informer la population en toute objectivité, à la manière de Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Et comme vous le savez, le mois de mars s'est déclaré mois de la femme. Le magazine des Nations Unies, toujours au rendez-vous, vous fera vivre les activités liées à cet événement. Sachez aussi que le 1er mars, c'est une journée décrétée zéro discrimination. C'est fini pour ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Ben Kabamba était à la supervision. Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et Honoré Mistengakalala au reportage. Lydie Bettina vous a présenté cette émission mise en onde par Mimi Kindou. L'émission est à réécouter sur notre site internet. C'est le www.radiookepi.net. Merci de votre fidélité et à la prochaine.